ce chapitre 8 de Luc, en fait, quand on a des gros blocs comme ça, il fait 55 versets, on a le choix en tant qu'enseignant. Soit on se concentre sur une partie, soit on fait autre chose. Et la dernière fois, donc le chapitre 7, Aurélien avait focalisé spécialement sur la guérison du fils de l'officier royal et la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et au départ, je pensais faire ça parce qu'il y a plein de richesses dans Luc 8, il y a la parabole du semeur, la guérison à Gadara, il y a ce passage de Jaïrus qui mériterait un enseignement à lui seul. Et finalement, en méditant ce texte au fil des jours, j'ai voulu prendre un peu de hauteur. Et donc, plutôt que prendre un passage, je vais essayer de voir dans l'ensemble la stratégie de Jésus. Vous allez voir que c'est vraiment éclairant. Vous savez que quand on fait de la topographie, on peut être sur le terrain et on voit très clairement le détail du terrain. Mais parfois, quand on prend l'hélicoptère, on s'élève et on voit autre chose. Hein, vous savez, au Pérou, là, il y a les symboles Nagza, là, vous savez, je me souviens plus, c'est des motifs qu'en fait qui ne se voient que par hélicoptère. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre un peu de hauteur, on va voir un peu quelle est la stratégie de Jésus avec ses disciples. Parce qu'en fait, le but de Jésus, à part mourir sur la croix, qui est quand même l'élément essentiel de sa venue, c'est de faire des disciples. Et donc nous, on est des disciples de Jésus, et en tant que nous, enseignants, on est des dépositaires, notre but c'est de faire des disciples. Et d'ailleurs, la mission de chaque chrétien, c'est pas du tout ni d'évangéliser, ni de bâtir des églises, ni d'implanter, et ça fait partie du jeu, mais la mission principale de chaque chrétien, c'est de faire des disciples. Donc, c'est une question de multiplication. Et donc, pour faire des disciples, on sait pas, parce qu'il n'y a pas de manuel du disciple, mais il y en a un parfait, c'est la Bible. Et en regardant Jésus, comment il fait, on peut aussi imiter Jésus. Et on sait que Luc est un médecin, c'est un vrai stratège, Luc. C'est un historien, donc il est très méticuleux. Par exemple, il va rapporter là dans cet texte de Luc. D'ailleurs, je vous invite à prendre vos Bibles parce qu'on ne va pas afficher de texte. Et puis, on va se promener dans le texte un petit peu. Donc, on ne va pas lire formellement des passages. Je vais faire référence à ça. Donc, si vous avez vos Bibles, regardez, et c'est bien d'avoir là, pour le coup, une Bible papier, parce que ça vous permet d'avoir une vue d'hélicoptère en tournant les pages. Voilà. Parce que Luc, donc, est un historien, et Luc, par exemple, va rapporter dans ce chapitre 8 la parabole du semeur de manière isolée. Alors qu'on sait, par exemple, que Matthieu, il regroupe toutes les paraboles dans le chapitre 13. Mais Matthieu, il est thématique, il structure son évangile en grands discours, alors que Luc est plus méticuleux, il est plus historique, il est plus chronologique. Et la manière avec laquelle il rapporte ça, parce qu'on sait que, selon l'évangile de Jean, que Jésus a fait des tas de choses, mais les évangélistes n'ont pas tout rapporté. Et ils ont structuré, en fait, les choses d'une certaine manière, et il faut comprendre ça. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir au chapitre 7. Au chapitre 7, n'oublions pas, Jésus a appelé ses disciples, il est en train de les former. Ils sont à l'école avec Jésus. Et donc, le chapitre 7, on a vu avec Aurélien, il y a deux victoires, quasi-victoires sur la mort. La guérison du fils de l'officier qui est quasiment mourant, et il y a le fils de la veuve de Naïn qui est mort. Donc, c'est un double miracle, en quelque sorte, qui va rappeler un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. On peut faire le parallèle entre, on l'a vu tout à l'heure, la guérison de Naaman et la guérison de cet esclave mourant. Parce qu'on a deux païens ici qui bénéficient de la grâce de Jésus. Et puis, la résurrection du fils de la veuve de Naïn, on peut aller chercher un parallèle avec la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Il y a, en quelque sorte, des parallèles. Alors, pourquoi est-ce que Luc rapporte, finalement, ces deux événements conjoints, qu'on peut relier à ces événements de l'Ancien Testament? Parce qu'à un moment donné, dans le chapitre 7, il y a l'interrogation de Jean. Est-ce que, Jésus, tu es celui qui doit venir, ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Et on sait que Jean est rejeté par les autorités, on sait que Jésus est rejeté par les autorités. Donc il y a un double rejet, il y a un double miracle ici, qui va chercher un parallèle dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, Jésus en profite pour rendre hommage à Jean. Et finalement, dans le chapitre 7, et ça on n'a pas eu le temps de le voir, parce que si on fait une vue de terrain, on ne peut pas faire une vue d'hélicoptère. Jésus va, en rendant hommage à Jean, il a dit en gros, parmi ceux qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est Jean. Et pourtant, c'est le plus petit dans le royaume des cieux. Et il va classer les gens en deux catégories. Il y a ceux qui ont écouté le message de Jean, qui ont été justifiés, ça c'est chapitre 7, verset 29. Tous ceux qui ont écouté le message de Jean, qui l'ont reçu, ont reçu la sagesse de Dieu, ils se sont fait baptiser, parce que Jean prêchait le baptême de repentance. Par contre, les pharisiens qui ont rejeté le message de Jean ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Donc là encore, on a une dualité. On a ceux qui ont accepté, qui ont écouté, et ceux qui ont refusé. Et donc, on a un premier thème qui se dégage, c'est l'écoute. Qui a écouté, qui n'a pas écouté. Et puis, à la fin du chapitre 7, on a cet épisode, la pécheresse pardonnée, chez Simon le pharisien. Et ce chapitre-là, le chapitre 7, se termine par cette parole à la femme pécheresse qui a pleuré sur les pieds de Jésus, alors que vous savez, Simon, il n'a rien fait du tout, il n'a pas lavé les pieds de Jésus, rien. Bon. Ce chapitre 7 se termine par « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Donc le chapitre 7 prépare le chapitre 8. Premier thème, on a dit « L'écoute, ceux qui ont écouté, ceux qui n'ont pas écouté Jean ». Deuxième thème, « La foi, ta foi t'a sauvé, va en paix ». Donc Jésus a introduit ces deux thèmes au travers de Luc, au travers de ce qu'il a fait. Et maintenant Jésus au chapitre 8 va développer ces deux thèmes, mais de manière très pédagogique. Alors, ce chapitre 8, il est très long. Je vous dis 55 versets, on n'a pas le temps de tout lire. L'avantage, c'est que dans la newsletter, les thèmes sont annoncés. Donc j'espère que vous avez pu lire le chapitre 8. Sinon, il faut faire appel à votre mémoire, faire appel à votre Bible. Donc ce chapitre est très long. Et quand on lit ce chapitre, on a l'impression d'avoir une succession d'histoires sans beaucoup de liens. Vous lirez, si vous n'avez pas lu, ou ceux qui l'ont lu. Moi, je l'ai lu une première fois, je me suis dit, tiens, ok, qu'est-ce qu'il y a comme cohérence là-dedans? Il a fallu du temps, j'ai eu du mal à trouver, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que... Au début, je me dis, je vais prendre Jairus, et puis on va développer Jairus, ou développer la parabole du semeur. Et puis, au fur et à mesure, et c'est ça aussi la persévérance, c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai vécu ça, cette persévérance de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte? Et en fait, on va voir aujourd'hui, il faut un cœur bien disposé et désireux d'apprendre pour se plonger et comprendre la richesse de l'enseignement de Jésus. Je répète, il faut avoir un cœur bien disposé et désireux d'apprendre pour se plonger et comprendre la richesse de l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire que si on lit les évangiles de manière superficielle, c'est une succession d'histoires. Ça rentre dans l'intellect. Ah ouais, c'est une belle histoire. Ah oui, il a guéri. Ah oui, ah il a ressuscité un mort. Ah oui, là il a repris. Bon, mais si ça reste au niveau de la tête, il va rien se passer. Donc il faut ce cœur bien disposé. Et donc, quand on regarde cet ensemble de chapitres et se souvenir donc que Luc est un historien, il est méthodique, c'est un assembleur, il doit y avoir une signification. Et donc, déjà un premier regard sur ce chapitre 8 m'a amené à voir une structure symétrique. Alors on va passer à la... Voilà. Ce que j'appelle une structure en chiasme. C'est-à-dire, c'est une structure symétrique qui est un moyen pédagogique de se concentrer sur quelque chose d'essentiel. Donc, quand on regarde cette structure en chiasme, vous savez, la structure en chiasme, c'est A, B, C, A', B', C'. C'est-à-dire que ce qu'il y a en haut en violet, ça répond à ce qu'il y a en bas en violet. Ce qu'il y a en orange, ça répond en orange. Et finalement, le centre d'un chiasme, c'est l'élément essentiel. Vous connaissez ce système de chiasme, j'en ai déjà parlé. Par exemple, la parabole du fils prodigue, elle est construite comme ça. Si on creuse un peu plus loin, là on est dans un autre niveau de lecture. On essaie de comprendre finalement qu'est-ce que Jésus essaye de montrer. Et finalement, le centre du chiasme, vous voyez, c'est les trois principes fondamentaux de vie. Ce que j'appelle les trois principes fondamentaux de vie que vous avez au verset 16 à 18, c'est quoi? C'est premièrement la parabole de la lampe, d'accord? Il y a la parabole de la lampe. Ensuite, il y a le fait que rien n'est secret, tout sera révélé un jour, verset 17. Et le verset 18, c'est l'espace pour la vérité est très étroit, c'est-à-dire prenez garde à la manière dont vous écoutez. On retrouve ici, dans ce structure de Luc, on retrouve cet espace étroit de vérité. Attention à ce que vous écoutez. Parce qu'aujourd'hui, il y a du bruit partout. Il y a des études bibliques partout. Il y a des tendances, des mouvements évangéliques dans tous les sens, avec des doctrines dans tous les sens. Et Jésus nous dit, attention, prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est un avertissement très très sévère pour la semence de la parole de Dieu. Parce que juste avant, le vrai terrain qui porte du fruit, vous l'avez reconnu, c'est la parabole du semeur. Quatre terrains, il y en a un seul qui porte du fruit, les autres, non. Donc, je dois bien écouter, vraiment bien écouter. Alors écouter, c'est au sens large, c'est-à-dire que je dois bien assimiler la parole de Dieu qui m'est enseignée, et je dois faire comme les chrétiens de Béret, aller chercher la réalité de ce qu'on me dit. Pas juste me contenter d'une lecture rapide, le matin, 5 minutes, clac, clac, je lis un texte et je retiens rien. Donc ça, c'est une première structure. Si je fais le plan, ceux qui suivent Jésus, c'est 2-3 versets, les disciples, et puis on voit qu'il y a des femmes. Petit clin d'œil, les femmes étaient très importantes pour Jésus, alors qu'à l'époque, elles étaient complètement rejetées. On a des femmes citées par leur prénom, d'accord ? Ensuite, il y a la parabole du semeur. Ensuite, ces trois principes fondamentaux que j'ai développés. Ensuite, les parents de Jésus qui disent, qui viennent voir Jésus, et on lui dit, Jésus, tes parents sont là. Et Jésus dit, non, en fait, mes parents, mes vrais parents, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, la vraie parenté. Et puis, derrière, on a finalement, le gros du chapitre, presque les deux tiers du verset, c'est quatre miracles. Quatre miracles, les disciples dans la barque, la tempête, d'accord ? Le démoniaque de Gadara, la guérison du démoniaque, la résurrection de la fille de Jaïrus et la femme atteinte d'une perte de sang. Donc, Jaïrus et la femme atteinte d'une perte de sang, on l'a vu rapidement ce matin, on l'a survolé, mais il y a quand même l'essentiel. Et je remercie ceux qui ont prié à haute voix, parce que c'était vraiment encourageant que des gens viennent à Jésus comme ça en leur disant « Mais oui, moi je suis comme Jaïrus, moi je suis comme cette femme, j'ai une foi vacillante et Jésus a honoré votre prière. » Le démoniaque à Gadara, je ne reviendrai pas dessus parce que je l'ai traité en détail. Alors ça n'a pas été enregistré ou ce n'est pas sur le site. J'ai parlé dessus le 26 juillet 2020. L'enregistrement est disponible, Guy doit l'avoir. Donc si jamais vous voulez un détail sur le démoniaque de Gadara, vous adressez à Guy ou vous me demandez, j'ai la bande d'enregistrement. Parce que c'est intéressant, le démoniaque de Gadara, il y a aussi, on est dans la même thématique. La réaction des gens, enfin de diverses personnes face au témoignage de Jésus. Voilà donc un peu une première structure de l'évangile du chapitre 8 de l'évangile de Luc. Mais on peut aller plus loin et finalement, si je reprends ces deux thèmes que Jésus a développés au chapitre 7, c'est-à-dire écoute, l'écoute au sens large et cette notion de foi, eh bien on peut discerner l'intention de Jésus. Il ne faut pas oublier qu'au chapitre 9, là j'anticipe déjà la suite, je crois que c'est toi Philippe qui va faire le chapitre 9, si j'ai bonne mémoire. Bon, écoute... il me semblait qu'on avait permuté, mais bon, peu importe. Donc, au chapitre 9, Jésus va envoyer ses disciples en mission. Donc, pour les envoyer en mission, il faut les préparer. Il faut qu'ils partent avec un certain bagage de foi. Mais avant de les envoyer, il faut vérifier s'ils ont bien assimilé ce bagage de foi. Moi, j'ai un neveu qui est mécanicien. Il a fait un bac pro en mécanique et il travaille maintenant pour un grand concessionnaire. Et puis on a parmi nous Ruben Rotuneau qui fait de la mécanique en moto. Donc il est allé à l'école, il a appris. Et quand on a appris, qu'est-ce qui se passe entre l'apprentissage et la vie professionnelle ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avant entre l'apprentissage et la vie professionnelle ? Tu as une idée, Alexandre ? Ah oui, il y a l'embauche, mais avant l'embauche. Il y a ce que personne n'aime, en fait. Le bac, tu as raison. Il y a l'examen. Quand on va à l'école, à l'université, on a un examen. On n'aime pas passer des examens. Mais il sert à quoi, l'examen ? L'examen, c'est savoir est-ce que je suis apte ou pas à rentrer dans la vie professionnelle. Donc, Jésus va faire un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il a développé, au chapitre 7, deux thèmes, la foi et l'écoute. Et il veut savoir si ses disciples sont aptes à mettre en pratique la foi et l'écoute lorsqu'il va les envoyer en mission au chapitre 9. Donc, il va prendre le chapitre 8 et il va les former. Il va les former en deux temps. Et pourquoi il va passer deux temps ? Parce que on aime bien écouter des études bibliques. C'est super. On vient le vendredi, on se connecte, on écoute, on passe un bon moment, on voit des frères et sœurs, on dit bonjour, au revoir, et après, on se déconnecte et c'est terminé. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas de quiz. On ne sait pas si on a compris ou pas. Si le prédicateur ou l'enseignant était mauvais, peut-être que la personne n'a rien compris, mais ça ne fait rien, je me déconnecte, j'ai fini, je rentre chez moi, et puis je peux passer ma vie comme ça à écouter des études bibliques, et on ne sait pas si j'ai appris, si j'ai assimilé. Et pourquoi on n'aime pas passer des examens? Pourquoi on n'aime pas les tests et les quiz? Parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on ne sait pas gérer l'échec. On se dit, si jamais je me plante ou si j'ai une mauvaise note, je vais me faire taper sur les doigts. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, c'est une véritable sagesse de savoir gérer l'échec. L'échec est super formateur. Regardez l'apôtre Pierre. Toutes ses envolées magnifiques à la Pentecôte, tout ce qu'il a fait pour ouvrir les clés du royaume de Dieu. S'il n'avait pas échoué, il se serait lamentablement planté. Il aurait été tellement orgueilleux qu'il aurait tout explosé. Donc Jésus a permis que Pierre se plante lamentablement par le reniement pour former cet apôtre. L'apôtre Paul, c'est pareil, s'il n'avait pas eu son écharpe, vous imaginez l'orgueil, les révélations qu'il a eues, il aurait pu se vanter. Mais Dieu lui a mis une écharpe parce qu'à un moment donné, l'échec est formateur. De la même façon que l'épreuve est formatrice pour la foi, l'échec est formateur. Mais on n'aime pas passer des examens. Mais Jésus va quand même faire comme ça. Alors, dans ce chapitre 8, on peut distinguer deux étapes. D'accord ? Ça, c'est un autre plan, une autre façon. Le premier plan, c'est une structure chiasmatique qui permet de voir l'essentiel de ce que Jésus veut dire. Le rôle de la lampe, elle est faite pour éclairer. Donc, on est tous des lumières qui doivent briller. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on a vu, c'est qu'il faut prendre garde à la manière avec laquelle on écoute. Et le troisième point, rien ne sera secret. Tout sera un jour révélé. Donc, il faut faire très attention. Parce que la manière avec laquelle j'écoute, un jour, tout sera révélé. Et donc, ça, c'est une autre approche de Luc 8. C'est deux étapes. Première étape, Jésus va enseigner ses disciples comment acquérir la foi. Deuxième étape, comment vérifier que cette foi est bien acquise. Alors, voyons la première partie. Donc, chapitre 1 à 21. Encore une fois, le mot-clé qu'il y a dans ce chapitre, c'est le mot « écouter, entendre ». Tout ce qui est « écouter, entendre ». C'est un terme qui est utilisé 9 fois dans ce passage. Pourquoi le mot « écouter » est important ? Eh bien, parce que, n'oublions pas, l'objectif pédagogique de Jésus, c'est de former les disciples, de développer leur foi, parce qu'ils en auront besoin pour aller sur le terrain. Et Romains chapitre 10, verset 17, vous connaissez ce passage, nous dit « la foi vient de ce que l'on entend ». Et elle vient de la parole de Christ. J'en reviens à ce que j'ai dit au début. La foi, on peut avoir foi en n'importe quoi, en la technologie, en Google, en tout ça. Mais la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, elle vient de la parole. C'est parce que Jésus a promis à Pierre qu'il pouvait venir vers lui sur l'eau que Pierre a pu marcher sur l'eau. C'est parce que la veuve de Sarepta a cru qu'elle pouvait cuire un gâteau pour Élie et que Élie pourvoirait à ses besoins, elle était prête à se démunir de tout ce qu'elle avait pour donner ça à Élie. Elle savait que la parole du prophète était une parole réelle. Donc la foi, elle vient de la parole. Elle ne va pas vous tomber dessus comme ça. La foi, elle ne tombe pas en disant « Seigneur, j'ai pas de foi, envoie-moi une dose de foi, envoie-moi un seau de foi, envoie-moi un camion béton de foi. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. La foi vient de ce que l'on entend. C'est de dire qu'est-ce que Dieu dit dans la parole. Tout à l'heure, quelqu'un dans la prière a parlé de Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. » Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Quand Jésus affirme ça, si je crois dans ça, je sais qu'à un moment donné, ma demeure, elle est là-haut. Et si je ne crois pas, je peux croire n'importe quoi. Donc, Jésus va ici mettre l'accent sur 3 actions concomitantes. La première des actions, c'est, pour acquérir la foi, c'est recevoir. C'est recevoir. Et donc, comment est-ce qu'on reçoit la foi ? Il va l'illustrer par la parabole du semeur. Ou, je préfère dire, la parabole des terrains. Parce que l'un n'est pas sans l'autre. On peut être semeur, on peut avoir des graines, mais s'il n'y a pas de terrain, il n'y a rien qui pousse. Inversement, je peux avoir un bon terrain fertile, si je n'ai pas de graines, ça ne pousse pas non plus. pour moi, c'est vraiment la parabole du terrain, c'est la parabole de l'état de mon cœur. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un cœur qui est disposé à accueillir la parole de Dieu et la mettre en œuvre avec persévérance? Et ça, c'est un processus. Parce que notez, alors là, je fais appel à votre mémoire, on ne l'a pas lu, mais notez que le quatrième terrain qui porte du fruit, ce n'est pas un terrain où la graine, le lendemain, va donner un super fruit. Le semeur, il jette sur le bon terrain, le lendemain, il n'y a rien, le surlendemain, il n'y a rien, une semaine après, il n'y a rien. Un mois après, avec un peu de pluie, il y a une petite pousse qui sort. Donc, l'écoute et la réception de la parole de Dieu est un processus lent et persévérant. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire que c'est la méditation quotidienne, c'est pas juste une lecture rapide, c'est la méditation, le mâchouillement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, comprendre comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, c'est passer du temps qui fait qu'à un moment donné, cette graine que j'ai reçue, que je reçois de la parole, va commencer à s'enraciner et va commencer à pousser. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur la parabole du semeur. Moi, quand je prêche dessus, j'ai l'habitude de dire que c'est la parabole de Benjamin Button. Vous connaissez Benjamin Button? C'est quoi l'histoire de Benjamin Button? Ça vous dit quelque chose? Non? Exactement. C'est un homme qui commence vieux et qui finit jeune. Il vit sa vie à l'envers. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire, quand on regarde le terrain... Pour moi, la succession des terrains, c'est une succession d'âge à Benjamin Button. C'est-à-dire qu'en fait, le terrain dur, ça pourrait s'assimiler à un terrain de fin de vie. Très souvent, on voit des personnes âgées, le terrain est extrêmement dur. Quand toute ma vie, j'ai rejeté Dieu, j'ai du mal, la graine ne rentre pas, quoi. Après, il y a le terrain pierreux, d'accord, c'est le terrain superficiel. D'accord? C'est le terrain superficiel, donc c'est le terrain, peut-être l'âge mûr, un peu le mien. Moi, je suis au Seigneur depuis plus longtemps, mais c'est vrai qu'il y a peu de gens quand même qui se convertissent à l'âge de 55-60 ans. Il faut vraiment un événement particulier, parce que le cœur a été buriné par la vie et le terrain est un peu dur. Et puis, les épines, c'est souvent un peu l'âge... On va dire l'âge d'or, c'est depuis du mariage jusqu'à le départ des enfants, 30-50 ans. C'est-à-dire qu'on a tout en même temps, on a la carrière professionnelle à construire, le mariage, les enfants, l'église, enfin on a plein de choses. Et puis on a plein de distractions aujourd'hui, on peut s'abonner à Netflix, on peut s'abonner à plein de trucs. Donc on a tout ça, c'est les épines en fait qui peuvent étouffer la parole. Parce que la parole elle est au milieu de plein de conflits finalement. Et puis... Le bon terrain, c'est souvent le terrain jeune. C'est pour ça que le culte de jeunesse est vraiment important. La plupart d'entre nous, si on faisait un sondage, se sont convertis entre peut-être l'âge de 10 ans et peut-être 25-30 ans. On se convertit dans cette période-là. Voilà. C'est une constatation, c'est pas une vérité dogmatique. Et le critère ultime de cette parabole du semeur, c'est le fruit. C'est le fruit. C'est pas la conversion. Parfois, on se dit, je prie pour que mes enfants se convertissent. Et quand ils sont convertis, super, ils sont convertis. Mais non, c'est le début, ça. Le but de Jésus, c'est pas que les enfants se convertissent, c'est une étape. Le but, c'est porter du fruit. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, et le but de l'école du dimanche, enfin, le culte de jeunesse, on appelle ça maintenant, c'est que plus tard, les enfants portent du fruit. Donc c'est super que les enfants connaissent l'histoire de Naaman, l'histoire de la veuve de Sarepta. Mais l'idée, c'est que demain, ces enfants portent du fruit. Et que chacun d'entre nous, on porte du fruit. En fonction des dons qu'on a reçus. C'est ce que dit Jésus dans le sermon sur la montagne. Vous les reconnaîtrez, leurs fruits. Et notez que dans cette parabole du semeur, qui parle de recevoir, il y a 3 terrains sur 4 qui ratent la cible. Il n'y en a qu'un qui porte du fruit sur les 3. Alors c'est sûr que le deuxième, la plante, elle pousse, elle germe, mais dès qu'il y a une épreuve, dès que le soleil vient, elle sèche. Donc c'est pas la peine, il n'y a pas de fruit. C'est bien d'avoir une plante, c'est mieux que le terrain dur, mais c'est pas le but. Le but de Jésus, c'est porter du fruit, parce que Jésus va nous évaluer. Je vous avais parlé d'examen tout à l'heure, il n'y a pas d'examen quand je viens à l'étude biblique. enfin, nous, on n'en fait pas, du moins. Hein. L'IBG, ils font des quiz, des choses comme ça. Il y a des examens. Mais notre examen, on va le passer un jour devant Jésus. Donc, je n'ai pas le temps de détailler tous ces terrains pierreux, hein, ce n'est pas le but. Mais je voudrais insister sur les caractéristiques du bon sol. Finalement, c'est ça, c'est celui qui nous intéresse. Donc, il faut que la parole soit semée par le semeur. Le bon sol, il écoute la parole, d'accord ? Ensuite, le bon sol, il retient la parole, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas le diable, il ne laisse pas les épreuves, il ne laisse pas les séductions du monde gâcher cette parole. C'est ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean, il le dira plusieurs fois, chapitre 8, chapitre 15, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc c'est l'histoire de l'écoute. L'écoute, ce n'est pas juste les oreilles, c'est une parole qui descend dans le cœur, qui la garde, je la retiens. Mais ce que nous dit aussi les caractéristiques du bon sol, et là je vais reprendre Luc là pour vous donner la référence. Chapitre 8, verset 15. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête et la retiennent et portent du fruit par la persévérance. D'accord ? Donc c'est ça qui est important. Le bon sol, il écoute la parole, il la retient, il a un cœur honnête. Ça veut dire quoi un cœur honnête ? C'est un cœur juste, c'est un cœur noble, c'est un cœur qui cherche à connaître la vérité, comme les chrétiens de Béret, je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est un cœur bon, bien disposé, dévoué, engagé, attaché à la vérité. Et l'idée, c'est de porter du fruit avec persévérance. Donc c'est ça qu'il faut retenir de ce premier passage. Donc, écouter pour recevoir. Et aujourd'hui, avec toutes les Bibles qui sont à notre disposition, tous les messages online, le problème, ce n'est pas la semence. Quoique, dans la semence, il y a des mauvaises graines aussi, il y a de l'ivraie. Mais souvent, c'est un problème de terrain, c'est-à-dire c'est un problème qui concerne l'état de mon cœur. Est-ce que j'ai un cœur agité où la graine va tomber, mais elle ne va pas s'enraciner. Elle ne va pas pouvoir prendre parce que j'ai trop de soucis, ou parce que je suis trop superficiel, ou parce que je réagis émotionnellement. C'est ça, finalement, le défi d'aujourd'hui. C'est quel est l'état de mon cœur ? Premier point. Deuxième point, c'est écouter et partager. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai écouté, c'est l'idée de la parabole de la lampe. Et vous voyez, ça s'enchaîne, Luc enchaîne les idées. La parabole de la lampe nous dit que l'enseignement de Jésus, c'est une lumière. Jésus est la lumière du monde, il le dira en Jean 8. D'accord ? Il est la lumière. Donc, si Jésus est la lumière et qu'il m'enseigne, eh bien, il me dit aussi, dans le serment sur la montagne, que votre lumière brille devant les hommes. Donc, écouter, ça implique de partager avec les autres. Et puis, vous connaissez l'adage qui dit qu'on ne retient bien que ce qu'on enseigne. Vous avez déjà fait l'expérience, quand vous enseignez quelque chose, eh bien, vous l'apprenez d'une certaine manière. Parce que ça vous oblige à prendre le contenu, à le digérer à votre façon et à le présenter de manière audible. Et le fait de faire ce travail de structuration, c'est un travail d'appropriation. C'est des questions de liaison neuronale. D'accord ? Il y a des connexions synaptiques qui se forment dans le cerveau qui font qu'à un moment donné, on retient mieux ce qu'on enseigne. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, moi je l'expérimente tout le temps. Parce que ça favorise l'enracinement. C'est-à-dire que nous, on est à la fois des receveurs des terrains, on reçoit la parole, là vous êtes en train de recevoir la parole aujourd'hui, mais on est en même temps des semeurs. Parce que derrière, on doit partager. Et le fait de partager favorise l'enracinement. Alors, ce n'est pas une parabole agricole. Ce n'est pas, si vous vous mettez à semer, vous n'allez pas, enfin, il n'y aura pas d'enracinement. Mais c'est une parabole générale qui dit que plus on enseigne et plus on retient. Hein. On retient en général 15% de ce qu'on entend. Si on y met du visuel, ben, ça monte à 30%. Si on y met de l'enseignement, ça monte à 50-60%, et plus on enseigne, on arrive à 90% d'assimilation. Et en plus, partager. Pourquoi ? Parce que c'est notre mission. Notre mission, c'est de faire des disciples. Pour faire des disciples, il faut d'abord les enseigner. Et Jésus nous montre l'exemple. Il est en train d'enseigner ses disciples dans ce chapitre 8. Donc, premier point, recevoir, ça c'est l'état de mon cœur, c'est le terrain. Deuxième point, c'est partager. C'est la parabole de la lampe. On ne met pas une lampe sous le boisseau, on la met en vue pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est la notion de transmission, la notion d'éclairage. Et puis, la troisième notion que Jésus enseigne, c'est obéir. Et ça, c'est la parabole, enfin, c'est pas la parabole, mais c'est la parenté de Jésus, la mère et les frères qui viennent. Et Jésus pose la question, mais c'est qui ma mère et mes frères? Alors, bien sûr, il a des mères et des frères physiques. Et bien sûr, il va pas les rejeter. Mais au moment où ça se passe, la mère et les frères de Jésus rejettent Jésus. Ils disent, il est fou. Ils viennent le voir, ils disent, il est hors de sens. C'est dit dans un autre passage de l'Évangile. On sait que par la suite, ils vont se convertir. Le frère de Jésus sera un pilier de l'église de Jérusalem. Mais pour l'instant, la parenté de Jésus le rejette. Donc Jésus dit, en fait, ceux qui sont de ma parenté, c'est ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique. Et c'est ce que Jacques va reprendre dans sa première épître. Hein. Ne vous bornez pas à écouter la parole intellectuelle, mais mettez-la en pratique. Il faut que ça descende dans le cœur. Et donc, on retrouve ici ces trois principes fondamentaux dont je vous ai parlé dans la structure en chiasme. Et je voudrais insister sur cette histoire d'espace de vérité. Parce que c'est un avertissement sévère. C'est vraiment le discernement de ce que nous écoutons. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, tellement de contrefaçons de l'Évangile, des petites contrefaçons. Il faut être attaché à la vérité. Je dois être sûr que c'est la vérité. Parce que Jésus le dit clairement dans l'Évangile, si je ne m'attache pas à la vérité, et c'est ça que ça veut dire, au verset 18, « Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il pense avoir. » Je ne vous ai pas dit, mais toutes ces paraboles ici sont dans les trois évangiles synoptiques. Absolument. C'est-à-dire que c'est tellement important que les trois évangiles en parlent. L'évangile de Jean, c'est à part. Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est-à-dire que si l'espace, ce que je disais, c'est que l'espace d'écoute est très étroit, l'espace de vérité est très étroit. La vérité doit être défendue en permanence. Je peux glisser très facilement hors de la vérité. Et Jésus dit, si je glisse hors de la vérité, ce que je croyais avoir, même ça me sera enlevé. C'est ça que ça veut dire. Et Luc est le seul qui dit ça. Parce que Matthieu et Marc disent, à celui qui a, on donnera davantage, et à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Et Luc va plus loin dans le détail, il dit, on lui ôtera pas ce qu'il a, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. C'est-à-dire que si je crois une certaine vérité, je peux être complètement à côté de la plaque et me faire des illusions. Je peux croire un truc toute ma vie, pensant que c'est vrai, et à un moment donné, ça s'effrite parce que c'est faux. Donc comment faire? C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de la doctrine, de la saine doctrine. On a besoin d'un conseil d'anciens multipartite, parce qu'une personne ne peut pas détenir la vérité. Parfois, un ancien peut glisser de la vérité et les autres vont le rattraper. Parfois même, une église entière peut glisser de la vérité et quelqu'un peut la rattraper aussi. Donc on a besoin d'être dans la vérité, parce que je vous assure, en ce moment, il y a une cacophonie, tout ce qu'on trouve sur Internet, fake news, etc., ça explose. Quand j'y pense, c'est terrible. C'est terrible, et la vérité, c'est pour ça que Jésus dit à un moment donné, le Fils de l'homme, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il prévoyait Jésus déjà ces temps-là, et c'est des temps qu'on est en train de vivre. Donc méfions-nous de la vérité. Je prends un exemple. Vous parlez avec n'importe qui de prière. Avec des catholiques, même des non-croyants, ils vont vous parler de prière, moi je prie, etc. Le mot prière, c'est un mot galvaudé. D'accord ? Proverbe 28,9 va nous dire, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, alors sa prière même est une abomination. C'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser le mot prière en disant, moi je suis très pieux, etc., moi je prie, si en même temps il détourne l'oreille, c'est-à-dire s'il n'obéit pas à la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Donc vous pensez c'est quelqu'un de super spirituel parce qu'il prie, en fait sa prière est une abomination, c'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe 28,9. Deuxième exemple, celui qui absout le coupable, Proverbe 17,15, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux une abomination à l'Éternel. D'accord ? C'est-à-dire si je fais du favoritisme, si à un moment donné je déclare quelqu'un juste alors qu'il est coupable ou inversement, eh bien ma prière est une abomination. Donc, encore une fois, c'est l'obéissance à la parole. Voilà, j'en dirai pas plus, mais l'espace pour la vérité est très étroit. C'est pour ça que obéir à la parole de Dieu, c'est aussi connaître cette parole de Dieu. Je ne peux pas obéir à ce que je ne connais pas. On avance. Deuxième point, les disciples ont eu l'enseignement. Maintenant, Jésus va vérifier que cet enseignement est bien acquis. Parce que ce n'est pas tout de connaître une vérité, si elle est dans la tête intellectuellement. Encore faut-il la mettre en pratique. Et c'est là le fruit. Le fruit, c'est mettre en pratique quelque chose. C'est Montaigne qui disait « fâcheuse suffisance que pure suffisance livresque ». Ça, c'était un de mes profs de français qui disait ça. « Fâcheuse suffisance que suffisance pure livresque ». Si je connais la théorie et que je ne sais pas mettre en pratique, ça ne me sert à rien. Parce que Satan, il se fiche pas mal de ce que nous connaissions la Bible. Il la connaît lui aussi, Satan. Vous savez, dans la tentation de Jésus, il connaît la Bible. Satan, il s'en fiche. Ce qui lui importe, c'est qu'on n'en fasse rien. Donc, qu'on aille à toutes les études bibliques, qu'on connaisse par cœur la Bible, qu'on sache expliquer un texte, Satan, il s'en fiche. Pourvu qu'on ne le mette pas en pratique. Parce que c'est là que ça blesse. C'est pour ça que Pierre, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, parle de foi éprouvée. Et c'est ce que les disciples vont expérimenter. Jésus, après les avoir enseignés à écouter, à recevoir, à partager, à obéir, il va les mettre dans des situations où leur foi va être testée. Première situation, circonstances dangereuses. Ils traversent le lac. Jésus leur donne une promesse, on passe de l'autre côté du lac. Ça, c'est la promesse. Si je crois à la promesse, je serai de l'autre côté, parce que Jésus l'a dit. Sauf que là, il y a une tempête, et les disciples, eh bien, ils se plantent lamentablement, ils ont peur. Donc, premier test, premier échec. Voyez. Pourtant, les disciples, ils étaient avec Jésus. Hein. Ils avaient eu l'enseignement, ils ont tout compris. Jésus a pris du temps pour leur expliquer, il a fait des étapes, etc., etc. Luc nous rapporte ça. Et Jésus va leur reprocher, où est votre foi? Donc, premier échec, ils n'ont pas écouté la parole de Jésus, passons de l'autre bord. Deuxième expérience, les démons, démoniaques de Gadara. Il n'y en avait pas qu'un, il y avait une légion. Vous savez combien ça faisait une légion? Entre 4 et 6 000 hommes. Une légion de démons dans deux personnes. Donc ça dépotait. Hein. Donc là, encore une fois, je ne détaille pas. Revoyez le message du 26 juillet. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un email, je vous enverrai le lien. Même les démons, on l'a dit tout à l'heure, ils ont une certaine foi. Bon, là, c'est à peu près neutre, d'accord? Les disciples, ils assistent à la scène. On voit que le démoniaque, il croit à la parole de Jésus, il obéit, parce que le démoniaque veut suivre Jésus, il est tellement content d'être libéré de 6 000 démons. Mais Jésus lui dit non, tu restes là, tu restes à Gadara, parce que j'ai besoin de toi pour témoigner. Troisième mise à l'épreuve, la maladie. La maladie, bah, c'est la femme atteinte d'une perte de sang. D'accord? Et là, il y a un témoignage public, les disciples assistent à ça. Les disciples viennent de manquer de foi dans la barque, sur le lac, et ils assistent à ce témoignage de foi de la femme. Et puis, quatrième circonstance, c'est la mort. La mort de la fille de Jaïrus. Et là, il y a une parole de Jésus, Talitha Koumi, ça veut dire « jeune fille, lève-toi ». Et donc, là, ils apprennent. Ils voient par l'expérience que Jésus est victorieux de la mort. Ça tombe bien, on est un jour de Toussaint, ou bientôt à la Toussaint. Et donc les disciples assistent à ça. Alors, pour la mort, bien, la résurrection de la fille de Jairus, il n'y a que 3 disciples qui assistent à ça. Je n'insiste pas là-dessus. Donc 4 mises à l'épreuve. D'accord? Premier enseignement. Deuxième enseignement, la mise à l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comme application. Première application, bah pour les disciples, c'est pas encore ça. Ça nous montre que même un enseignement, il est dur à mettre en pratique. Parce qu'ils vont se planter dans la tempête, et puis ils vont partir en mission, ils vont revenir, et là, Jésus va commencer à enseigner de nouveau, et ils vont se trouver un soir sur une montagne, avec 5 000 hommes, rien à manger, et loin de tout village. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et ils vont se planter lamentablement une deuxième fois. Comment pourrons-nous faire? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alors que Jésus avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc ça nous montre qu'il nous faut beaucoup d'humilité, et qu'il nous faut beaucoup, beaucoup d'assimilation. Il faut du temps. La croissance de la graine qui est plantée est un processus très, très lent. Ben pour nous, je voudrais résumer en un petit schéma. D'accord ? La première étape, c'est écouter la parole de Dieu. C'est facile, ben tout le monde sait faire. Vous venez au culte, vous allez à l'étude biblique. C'est déjà vraiment bien. Il y a des gens qui vont faire leur jogging le dimanche matin ou le vendredi soir, donc c'est super. Mais ça ne suffit pas. La deuxième étape, c'est recevoir. Il faut que ça passe de la tête au cœur. Il faut que ça fasse sens pour moi. Il faut que je le mâchouille, que je le médite. Ensuite, c'est partager. Plus je vais parler, plus ma foi va se renforcer. Je vais parler de l'évangile à mon voisin, à quelqu'un de ma famille. Ma foi va se renforcer parce que je vais être capable d'honorer Jésus. Je vais avoir des réponses positives, des réponses négatives, mais ça va développer ma foi. Et puis obéir, bah, c'est agir, c'est faire quelque chose de concret, c'est me mettre en mouvement. Donc c'est ça en fait. Luc chapitre 8, c'est tout ça, en synthèse. Comment écouter, recevoir, partager et obéir. Et sachez-le, une fois que vous avez compris cet enseignement, Jésus va vous mettre à l'épreuve. Il est peut-être déjà en train de vous tester par différentes épreuves. Sauf que cette épreuve que vous vivez là actuellement, cette circonstance difficile, elle va peut-être entrer dans l'une des quatre cases, les circonstances dangereuses, la maladie, la mort, etc. Et peut-être que ça va vous aider à donner du sens à ce que vous vivez. Jésus est en train de vous former, il est en train, comme moi il me forme, il est en train de vous enseigner à ancrer cette graine, à la faire pousser pour que cette foi se développe. Donc l'application, on l'a vu pour les disciples, pour nous, j'ai envie de vous poser deux questions. Quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de mon cœur aujourd'hui? En termes d'enracinement, est-ce que ma parole s'enracine ou est-ce qu'elle est étouffée par les épines? Deuxième question, comment est-ce que je me laisse ensemencer cette parole finalement? J'y accède comment? Je la lis 5 minutes par jour? Je la lis une fois par semaine? Je la lis une fois par mois? Je la lis une demi-heure tous les jours? Peu importe, à vous de répondre, mais derrière, c'est pas tout. C'est comment cette parole va s'ancrer et comment elle va s'ensemencer. Et j'aimerais terminer par trois questions de réflexion. Avant cela, il y a quelques collégiens peut-être qui prennent des notes, alors je vais juste synthétiser les quatre questions qu'on avait posées aux collégiens, non ? Il y a des collégiens qui prennent des notes ? Oui, Yanis. Alors, les références Luc 8, bien sûr, de quoi parle ce passage ? Bien, il parle de comment augmenter sa foi et comment l'utiliser concrètement dans son quotidien pour réussir le test de foi que Jésus va nous présenter. Et donc, il y a quatre mots clés à retenir : écouter, recevoir, partager et obéir. Troisième question qu'on pose aux collégiens : qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie ? Ben, pour ma vie, tout simplement, ça veut dire que Dieu va permettre que dans les jours à venir, je vais vivre des occasions où ma foi sera mise à l'épreuve. Et cette mise à l'épreuve, elle sert juste à voir combien j'ai retenu de la leçon. Et enfin, que puis-je faire pour cette semaine ? Eh bien, peut-être relire le texte de Luc chapitre 8 à la lumière des notes que j'ai prises. Et puis de se dire, ben, finalement, quel est le test par lequel je suis concerné ? Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse pour les collégiens. Alors, c'est pour les collégiens, mais pas que, peut-être. Trois questions de réflexion. Qu'est-ce que, ce matin, la parole vous a enseigné ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre ? Deuxième question. Laquelle des circonstances que les disciples ont vécues, Dieu permet-il en ce moment pour tester ma foi ? Troisième question. Comment est-ce que je vais pouvoir répondre différemment cette semaine au test que ma foi est en train de subir? Voilà, trois questions pour chacun d'entre nous. Je prie pour que le Seigneur puisse vraiment parler au cœur de chacun, vous inspirer pour vraiment mettre en pratique Luc chapitre 8. On va prier. Notre Dieu, merci encore pour cette parole. Merci pour la sagesse de l'évangéliste qui nous a transmis ces choses. Merci aussi de m'avoir aidé à comprendre ces vérités. Seigneur, j'ai besoin de plus que tout autre de mettre ça en pratique parce que c'est pas facile. Et vraiment, j'ai besoin de ta grâce et nous avons tous besoin de ta grâce. Seigneur, tu sais comment c'est difficile de mettre en pratique. Tu vois comment les disciples se sont lamentablement plantés. Et nous sommes comme ça, Seigneur. Merci d'être patient avec nous. Seigneur, merci de ne pas te lasser avec nous parce que tu pourrais être découragé. Mais tu continues, Seigneur, parce que ton but, c'est de nous prendre un jour avec toi, nous préparer une place, nous rendre semblables à ton image. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.